franceinter.fr.
Bonjour. La Grèce joue son avenir économique et peut-être qui sait aussi politique. L'Europe observe. Depuis ce matin, les Grecs votent un référendum pour dire oui ou non aux propositions des créanciers de la zone euro. Dans un instant, nous nous rendrons à Athènes, puis à Berlin. L'Allemagne, il ne faut pas l'oublier, demeure le principal État prêteur. Et nous verrons également quels peuvent être, après ce vote, les scénarios possibles. Nous en parlerons avec Patrick Artus, chef économiste chez Natexis. Il sera l'invité de ce journal. Agressée à Amiens, la sortie d'un restaurant par 4 individus, frappée, le nez cassé. Elle a décidé de porter plainte. La nageuse Mélanie Hennick, médaillée d'argent aux Mondiaux il y a 4 ans, porte plainte pour agression homophobe. Le Tour de France, deuxième étape, 166 km. Les coureurs sont toujours aux Pays-Bas. L'arrivée sera jugée à Zélande, au bord de la mer du Nord. L'Australien Dennis est en jaune. Premier tour de roue aux environs de 14 heures. Enfin, le temps. Demain, retour du temps sec avec des températures sensiblement plus supportables. Mais la canicule n'a pas dit son dernier mot. Elle reviendra en cours de semaine. 26 départements restent en vigilance orange.
Inter.
Argent frais contre réforme, l'Europe regarde en direction d'Athènes. C'est là que se joue sans doute une partie de l'avenir de la zone euro. Le référendum grec est en cours. 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote fermeront ce soir à 20h heure française. Référendum dont l'issue est incertaine. Sur les bulletins de vote, deux cases au choix pour les électeurs, oui ou non. Et une remarque au passage, sur ces bulletins de vote, la case non apparaît au-dessus de la case oui. Autant dire qu'Alexis Tsipras appelle ses compatriotes à voter contre les propositions de la zone euro au risque de mettre son poste dans la balance. Pour les électeurs grecs, après une semaine de pression politique, médiatique et surtout économique, Laurent Kramer, c'est aujourd'hui l'heure de vérité. Laurent, vous êtes actuellement devant un bureau de vote, celui d'une école du quartier populaire d'Ambelokipi.
Oui, les familles sont venues nombreuses dès ce matin à l'ouverture des bureaux de vote. On accompagne des grands-parents et les plus jeunes qui pour certains n'ont que 17 ans aujourd'hui et fêteront seulement leurs 18 ans au cours de l'année sont autorisés à voter. Alors face aux conséquences de ce référendum réel ou fantasmé, la décision dans l'isoloir est parfois difficile à prendre. C'est le cas d'Elena, 24 ans.
J'ai beaucoup réfléchi. Jusqu'à la dernière minute. Toute la semaine, je me suis interrogée et j'étais inquiète. Et je n'ai pris ma décision que ce matin, en suivant simplement mon instinct. Je me suis décidée en fonction de ce que me disait mon cœur.
Je vote non.
Les partisans du oui sont persuadés que seul un oui massif ce soir permettra de négocier un accord avec Bruxelles. Mais il faut relativiser les conséquences du non, veut croire Adonis, 45 ans.
Bien sûr, c'est un grand jour, un jour de démocratie. Il faut que tout le monde vienne voter. Des doutes, il y en a bien sûr, mais je pense que le résultat sera le même. Que ce soit le oui ou le non qui l'emporte, il y aura un accord avec l'Europe, j'en suis sûr à 100%. Je dis non aux mesures, mais je dis oui à l'Europe.
Alexis Tsipras s'exprimera dès ce soir. Après les résultats, les derniers sondages indiquent que les indécis restent nombreux et que le résultat du référendum pourrait être très serré. À Athènes, Laurent Macchetti, Laurent Kramer pour France Inter.
Le référendum grec vu de France ce matin à Villejuif dans le Val-de-Marne au congrès du parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé son soutien au gouvernement de Tsipras et encouragé les Grecs à voter non. Le président et cofondateur du parti de gauche dénonce l'étranglement méthodique et systématique de la Grèce entrepris par l'Eurogroupe. Jean-Luc Mélenchon en est persuadé, mettre à genoux le gouvernement grec d'Alexis Tsipras aura des conséquences pour la zone euro. Et Jean-Luc Mélenchon n'y va pas par quatre chemins, il parle carrément de coup d'État.
Cette Union européenne est capable dorénavant de poser des actes de guerre contre les peuples qui résistent aux traités budgétaires, c'est-à-dire la tonte gratuite, tranquille des peuples sans qu'ils puissent s'exprimer. Au point que M. Juncker a pu dire cette horreur, à savoir qu'il n'y a pas de vote démocratique contre les traités européens. J'affirme que la crise en Grèce a été provoquée de façon délibérée, volontairement, avec la complicité, on ne sait dire si elle est ingénue, naïve ou seulement stupide, du président de notre propre République, qui a cru, comme d'habitude, que tout finirait par s'arranger et qu'il lui suffirait d'une synthèse à l'ultime moment, comme dans les congrès du Parti Socialiste, pour faire s'entendre des gens qui, de toute façon, sont destinés à s'entendre, puisqu'ils ont beaucoup à se partager. C'est un coup d'État qui est en œuvre.
Propos recueillis à Villejuif par Nasser Madji avant même de connaître le résultat du référendum et aussi sans doute pour peser sur le vote grec en faveur du oui cette fois. La Banque Centrale Européenne, la BCE, affirme qu'elle pourrait utiliser des mesures supplémentaires si cela s'avérait nécessaire. En Allemagne, principal État prêteur de la Grèce, on suit, vous l'imaginez bien, le scrutin de très près. Berlin qui refuse toute nouvelle concession au gouvernement d'Alexis Tsipras, mais Angela Merkel le sait, tôt ou tard, il faudra revenir à la table des négociations. Nathalie Versieux, Berlin aimerait bien voir le oui, bien sûr, l'emporter et du coup se débarrasser, pourquoi pas au passage, du gouvernement de Tsipras.
Oui, Alexis Tsipras mène délibérément son pays dans le mur. Cette citation d'Angela Merkel, confirmée par plusieurs participants à une réunion interne à la CDU, en dit long sur les frustrations de la chancelière envers le chef du gouvernement grec, alors qu'elle pense sincèrement l'avoir aidé aussi par sympathie pour un jeune politicien dépourvu d'expérience. Face à Athènes, Angela Merkel se trouve confrontée à un dilemme. Si la Grèce sortait de l'union monétaire, c'est la politique de rigueur prônée par l'Allemagne qui sera remise en question et avec elle la gestion allemande de la crise. Si le oui l'emporte à Athènes, ce soir Angela Merkel devra obtenir de son Parlement le mandat de négocier un troisième plan d'aide à la Grèce alors que 70% des Allemands ne veulent plus aider Athènes. On le voit en Allemagne aussi, le référendum d'Alexis Tsipras divise le pays.
Merci Nathalie Versieux, invitée de ce journal. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis et membre du Cercle des économistes. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour.
Patrick Artus, vous êtes actuellement à Aix-en-Provence, vous suivez les rencontres économiques, on y a bien sûr beaucoup parlé de la Grèce. Patrick Artus, l'Union européenne est suspendue au résultat du référendum de ce dimanche. Deux scénarios possibles, on va ensemble, si vous le voulez bien, les analyser l'un après l'autre. Premier scénario, si le oui l'emporte, la Grèce reste dans la zone euro et assume ses dettes, au prix sans doute de nouvelles mesures drastiques.
Pas forcément, puisque si le oui l'emporte, on va quand même renégocier. Puisque, comme vous savez, le plan d'aide à la Grèce s'est terminé mardi soir. Hein. Et donc, il n'y a plus aujourd'hui de plan d'aide à la Grèce à redéployer, à reallumer, puisqu'il n'y a plus rien. Hein. Le plan précédent s'est terminé sans prolongation, puisqu'il n'y a pas eu d'accord. Donc, si le oui l'emporte, on va renégocier. Et on va renégocier, nous l'espérons, quelque chose qui soit plus efficace d'ailleurs que ce qui est soumis au référendum. Ce référendum est très bizarre d'ailleurs, en parenthèse, puisqu'il soumet au peuple grec le texte d'un accord qui n'a plus aucune valeur puisqu'il n'a pas été ratifié à temps. Ah, donc c'est quelque chose qui est assez curieux. Mais cela étant, le oui ouvre la porte, à mon avis, à une renégociation dont nous espérons qu'elle est plus globale que simplement un plan d'assainissement budgétaire.
Il y a quand même, Patrick Artus, un casse-tête en cas de victoire du oui. Comment rétablir la confiance des créanciers et des investisseurs pour relancer l'économie grecque ?
Oui, c'est ça le problème. Dans cette négociation, il ne faut pas seulement parler du budget ou de la dette, il faut parler de l'économie grecque, qui est le grand absent d'ailleurs de toutes les négociations depuis 2009. Hein, on s'est concentré sur la capacité pour la Grèce de rembourser ses dettes. On n'a jamais travaillé sur les conditions pour que la Grèce ait une croissance suffisante. On attend moins 1% de croissance en Grèce cette année et c'est peut-être pire que ça. Quand vous avez une croissance négative, de toute façon, vous n'êtes pas solvable. Donc il faut travailler en parallèle sur l'économie grecque, ce qui veut dire définir les secteurs où les Grecs ont un avantage comparatif, dans lesquels ils peuvent se développer, les aider à le faire. Et ceci n'a pas été fait au point que dans le programme qui est soumis au référendum, on demande une hausse très forte des impôts des entreprises, ce qui est complètement ridicule, puisqu'effectivement, si on veut qu'il y ait des entreprises qui investissent en Grèce, il ne faut pas les assassiner d'impôts.
Alors, deuxième scénario, on avance, Patrick Artus. Deuxième scénario, le non l'emporte. Les Grecs refusent de céder aux injonctions de leurs créanciers. Tsipras sort grandi, mais que pourra-t-il faire sinon revenir à la table des négociations à Bruxelles ?
C'est pour ça que peut-être on pourrait défendre une thèse assez biscornue, qui est que ça n'a pas tellement d'importance que ce soit le oui ou le non, puisque dans les deux cas, il faut renégocier. Si c'est le non, enfin, les Européens n'ont pas envie d'expulser la Grèce. Donc il n'y aura aucun mouvement brutal, si c'est le non, qui pourrait être par exemple une décision de la BCE, hein, de couper la liquidité aux banques grecques, mais personne n'a envie de faire ça.
Alors quand on dit il faudra réexaminer la dette d'Athènes, pudiquement on est en train de dire il faudra peut-être envisager une restructuration, elle est possible ?
Oui, écoutez, depuis 2009, on fait semblant que la Grèce est solvable. La Grèce n'était pas solvable dès 2009. Et au lieu de réaliser dès 2009 que la Grèce n'est pas solvable, on a continué à lui prêter davantage. Alors, cela étant, on a aussi remis 100 milliards, un peu plus de 100 milliards de dettes en 2012. On a aussi baissé les taux d'intérêt. Mais la Grèce n'est toujours pas solvable. Et donc, il faut quand même revenir à une règle de bon sens qui aurait dû être depuis le début celle du FMI, qui est que quand un pays est insolvable, on lui prête pas plus et on lui réduit sa dette. Mais bien entendu, on lui demande aussi de faire des efforts pour être solvable. Aujourd'hui, les Grecs n'ont pas accès aux marchés financiers. Donc, s'ils doivent rembourser leurs dettes, c'est juste parce qu'on leur prête ce qui leur permet de rembourser, ce qui est complètement insensé. Donc, il faut un plan équilibré où il y ait des hausses d'impôts, mais pas dans les endroits qui décourageraient les investissements, des baisses de dépenses, mais pas dans les endroits qui coupent la croissance. Par exemple, il faut arrêter de baisser les dépenses d'éducation ou de santé. Et puis, une certaine remise de dettes. Il faut prendre les trois instruments et pas un seul des trois.
Patrick Artus, rapidement, dernière question. On apprend de tout échec. Qu'est-ce que la crise grecque aura appris à l'Union européenne ?
J'écoutais ici même à Aix ce matin Benoît Cœuré et Pierre Moscovici. Je crois que le message qui passe, alors c'est passé très prudemment, hein, c'est quand même le message que les responsables européens commencent à comprendre ce que leur disent des économistes depuis 25 ans. C'est que dans une union monétaire où les pays sont très différents les uns des autres, il faut de la solidarité. Hein, les pays sont trop différents, donc il y a trop d'écarts de revenus, il y a trop d'écarts de capacités de développement. Et si on met pas de solidarité, eh bien progressivement, il y a des pays qui vont se décourager. Donc ce message est passé, et le message, si on veut tirer un message positif de la crise grecque, c'est qu'on a l'impression que ceux qui refusaient cette idée de solidarité sont en train de se rallier à l'idée que si on le fait pas, l'euro sera pas viable à long terme.
Patrick Artus, merci. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis et membre du Cercle des économistes, était l'invité de ce journal. Alors on reparlera de la Grèce ce soir à 18h10 sur France Inter avec Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, sera l'invité de Tous Politiques, émission présentée par Karine Bécard. Tous Politiques en partenariat avec France 3 et Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis j'ajoute que demain, France Inter sera à Athènes. La matinale sera consacrée à la crise grecque et aux résultats du référendum avec un 7-9 en direct d'Athènes présenté par Marc Fauvel.
Inter 13. Philippe Habitboul.
Elle a attendu une semaine, sans doute le temps de reprendre ses esprits. La nageuse Mélanie Hennick, médaille de bronze aux mondiaux de natation sur 50 mètres papillon en 2011, a décidé de porter plainte pour agression homophobe. Il y a 8 jours à Amiens, dans la Somme, Mélanie Hennick sortait d'un restaurant avec 2 amis lorsqu'elle a été agressée, Maxime Sayol.
L'agression s'est déroulée à la sortie d'un restaurant en centre-ville d'Amiens. Mélanie Hennick est avec 2 de ses amis lorsqu'elle est interpellée par un groupe de 4 hommes. Ils nous ont demandé des cigarettes, mais je sentais que ce n'était pas que pour ça, déclare la nageuse à l'AFP. D'abord des insultes, puis très vite des coups. Mélanie Hennick et ses amis sont à terre. La nageuse de 22 ans aura le nez cassé. Elle devra se faire opérer dans la foulée. Mélanie Hennick, qui vit désormais à Marseille, a décidé de porter plainte au commissariat d'Amiens. Elle sera examinée lundi par un médecin dans le cadre de l'enquête. Elle n'a donc pas pu s'aligner à l'Open de France de ce week-end à Vichy. Sa préparation pour les mondiaux à Kazan en Russie qui débute le 24 juillet a été interrompue, mais sa participation n'est semble-t-il pas remise en cause. Maxime Fayol, France Bleu Picardie pour France Inter.
Le nucléaire iranien, les négociations reprennent aujourd'hui à Vienne. La signature de l'accord est espérée pour mardi en cas d'accord entre l'Iran et les grandes puissances. Avec la levée progressive de l'embargo économique, le secteur touristique iranien devrait connaître une forte croissance dans les prochaines années. En tout cas, le potentiel est énorme. Il y a d'ailleurs déjà des lieux qui s'y prêtent. L'ancien palais du Shah à Téhéran et le mausolée de l'Ayatollah Khomeini au sud de la capitale iranienne. C'est d'ailleurs le lieu vers lequel convergent les fidèles du régime. Pour eux, seul compte l'obéissance au guide suprême. Guide qui, dans les institutions de la République islamique, sera seul à décider de signer ou pas l'accord nucléaire de Vienne. Le mausolée de l'Ayatollah Khomeini, visite guidée avec Christian Chéneau.
Depuis 20 ans, le mausolée de l'Ayatollah Khomeini est toujours en chantier. Dans la chaleur de plomb de l'été iranien, des ouvriers travaillent à son extension. Recouvert d'un drap de velours vert, la tombe du fondateur de la République islamique a été placée au centre d'un bâtiment qui pourrait contenir au moins 2 terrains de football. Morteza Gorbani est l'un des gardiens qui veille au respect des règles des lieux.
C'est une grande fierté pour moi de rendre service aux pèlerins et aux visiteurs qui viennent d'ici. Mon rôle, c'est d'orienter les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. En temps normal, nous sommes 3 ou 4 gardiens, mais pour les grandes occasions, il y a de 20 à 30 gardiens autour du tombeau.
On vient en famille, c'est l'occasion de profiter de la fraîcheur du lieu, de méditer ou de faire la sieste. Azam, femme au foyer portant le tchador, n'a pas connu la révolution de 79, mais elle continue à vénérer l'ayatollah Khomeini.
L'ayatollah Khomeini disait que l'Amérique c'était le grand Satan. On ne pourra jamais s'arranger avec les Américains qui veulent juste réaliser leurs ambitions. Mais pour le dossier nucléaire, si l'accord est approuvé par notre guide, nous obéirons et ça nous rendra heureux.
Car en Iran, depuis Khomeini, c'est le guide suprême qui a toujours le dernier mot. Téhéran, Arthur Gerbeau, Christian Chesneau, France Inter.
Le cyclisme, la deuxième étape du Tour Utrecht-Zélande, 166 km. Les coureurs arrivent au bord de la mer du Nord. Dans moins d'une heure, c'est l'Australien Rohan Dennis qui s'élancera en jaune. Xavier Monferrand, alors, après le contre-la-montre individuel d'hier et avec des moyennes hors du commun, cela devrait encore rouler très vite ce dimanche. Le parcours, Xavier, est en effet vraiment fait pour, hein.
Ah oui, effectivement, 166 km pour rejoindre Zélande au départ d'Utrecht. Après le départ fictif qui vient d'être donné, Philippe, eh bien, les coureurs vont s'élancer pour le sud des Pays-Bas, cette région de polder, hein, de territoire gagné sur la mer. Les coureurs donc, eh bien, sont attendus aux alentours de 17h du côté des polders de la Zélande, cette province des Pays-Bas. Après un départ dans les rues d'Utrecht, magnifique paysage de carte postale, hein, dans ce vieux centre d'Utrecht, eh bien, les coureurs prendront la direction de Zélande avec Rohan Dennis qui est le premier maillot jaune de ce tour, l'Australien de la BMC. Le premier français, lui, c'est Thibaut Pinot, auteur d'une très belle performance hier sur le contre-la-montre. On le suivra particulièrement, Thibaut Pinot, qui n'est qu'à 41 secondes de Rohan Dennis. Attention aux coups de vent, ce qui pourrait créer des coups de bordure et donc créer des scissions dans le peloton, ce qui peut promettre une arrivée spectaculaire dans la province de Zélande.
Merci Xavier Monferrand, on vous retrouvera tout à l'heure pour suivre cette deuxième étape du Tour. Le Mondial de pétanque, 54e édition à Marseille, les plus grands tireurs sont là, les boules c'est du sérieux. 75 équipes venues de 11 pays avec aussi des délégations chinoises et britanniques. Et à ce jeu, dans la hiérarchie mondiale, les Français ont l'habitude de briller. Reportage à Marseille, Marie-Christine Loriol.
Comme un petit bruit qui résonne depuis ce matin dans toute la ville. Il faut dire qu'ils sont plus de 12 000 à participer cette année au célèbre mondial La Marseillaise à pétanque. Et tout le monde rêve d'être à la hauteur des plus grands, comme Henri Lacroix, 8 fois champion du monde.
C'est sûr qu'au départ, on ne pensait pas y arriver jusqu'à là. Et puis, le destin a voulu autrement, donc que du bonheur.
C'est dans les allées du parc Borély que se dispute une partie des rencontres les plus prestigieuses aussi. 80 départements français sont représentés, mais aussi 15 nations, dont la Chine. Shaobin a attrapé le virus de la pétanque il y a 4 ans et ne manque plus aucun tournoi.
C'était en 2011, quand j'ai passé par le Vieux-Port, il y a un petit terrain, il y a quelques personnes âgées qui sont en train de jouer au pétanque. Puis au fur et à mesure, ça s'apprend.
Mais le mondial, comme on dit ici, c'est d'abord une façon de se retrouver en famille ou entre amis. Pour Frédéric, l'essentiel, c'est de participer, éventuellement de gagner.
Nous, on ne s'entraîne pas, on n'est pas des professionnels, on n'est même pas des amateurs.
Et des perdants, il y en a eu ce matin. Ainsi, les deux équipes chinoises sont d'ores et déjà éliminées. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Inter.
C'est la dure loi du sport. On laisse la pétanque sur le carreau et on termine avec la météo. Je vous retrouve à 19h. Je vous souhaite un excellent après-midi.
Ah bon, vous jouez la pétanque, vous? Ben, c'est parfait, c'est super. Hein,
c'est bien les boules.
Oui, c'est ça. Merci Philippe Habitboul. Tout de suite, les couleurs du temps avec Joël Collado de Météo France.
La météo avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Une chaleur encore accablante à l'est, du mieux avec des orages à l'ouest et sur le nord. Cet après-midi sur les régions de l'ouest et du nord où l'air redevient respirable. Le temps sera également beaucoup plus mitigé sur la pointe bretonne où les orages s'échapperont. Il y aura dans l'après-midi à nouveau de belles éclaircies interrompues par quelques averses. Entre le Maine, la Normandie, en début d'après-midi, les orages s'éloigneront. Sur le bassin parisien, le nord, il y aura de l'orage dans l'air près de la Belgique. Ces orages seront localement violents. Sur le centre, les averses seront beaucoup plus dispersées. Puis en allant vers l'est, le massif central, la région Rhône-Alpes, sur les 26 départements maintenus en vigilance orange, l'ambiance sous un ciel chaotique chargé de nuages porteurs d'ondées restera caniculaire. Et puis au sud, sur les régions les plus méridionales, entre Gascogne et Midi-Méditerranéen, sous un ciel pas toujours tout bleu, il continuera à faire très chaud. Les températures cet après-midi voisinent de 21 degrés sur les côtes bretonnes, de 23 à Lille, de 25 degrés à Paris. Ces températures atteindront à Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Besançon, Strasbourg, 36 à 37 degrés. Et puis sur le midi, les thermomètres qui dépasseront les 35 degrés dans les terres afficheront sur les plages plus de 30 degrés. Demain, sous le soleil, il fera très chaud au sud et beaucoup moins chaud à l'est.